C'est comme pour un acteur, c'est la personnalité, sa présence.
Franchement, ma chère, c'est le cadet de mes soucis.
Je m'appelle Berlin Noël et j'aime bien les yens.
Come on, guy. We'll be sweet with me.
C'est tellement intéressant de voir la réaction des spectateurs à qui on peut déplaire. J'aime bien frôler les catastrophes.
Mais vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations.
On a tout vu.
Allez, action!
Action, pourquoi faire?
L'un a été l'initiateur avec d'autres d'une certaine nouvelle vague française. L'autre, avec d'autres aussi, a initié le dogme danois. Pas de comparaison possible entre ces deux-là, et pourtant, nous les avons réunis ce matin dans un même contexte, le nôtre. Bonjour tout le monde et salut Laurent.
Bonjour Christine, bienvenue à toutes et à tous.
Un petit film fauché qui changea à jamais la face du cinéma à bout de souffle de Jean-Luc Godard, ressort en salle et en coffret luxueux, édité chez Studio Canal. 60 ans après sa sortie numérisée, restaurée, et une fraîcheur intacte, narration, mise en scène, montage, en rupture avec tout ce qui avait été fait auparavant. Nous allons revenir sur cette aventure, à bout de souffle, le film le plus emblématique de la nouvelle vague. 20 ans après son premier film, Un choc, et le premier du dogme danois, Festen, revoici Thomas Vinterberg avec Drunk et comme une renaissance. Derrière l'alcool et la crise de la quarantaine, un hommage à la vie, nous avons rencontré Thomas Vinterberg. Enfin, les sorties de ce mercredi, Adieu les cons, Michel-Ange, Le Feu Sacré, City Hall, Petit Vampire, ou Les Derniers Mots de Nocitaire. C'est parti.
La jolie fille, le vilain garçon, le revolver, le gentil monsieur, la méchante femme.
Scénario de François Truffaut.
La mort, la petite américaine, le voleur d'auto, le concerto pour clarinette, la police.
Supervision de Claude Chabrol. Un film de Jean-Luc Godard.
La tendresse, l'aventure, le mensonge, l'amour, les Champs-Élysées.
Avec Gene Seberg et Jean-Paul Belmondo.
À bout de souffle.
Le meilleur film actuel.
Cette bande-annonce d'À bout de souffle originale, intrigante et complètement décalée pour l'époque 1960. Le film ressort donc 60 ans plus tard, restauré, remasterisé. Michel Poicard, c'est Belmondo, vole une voiture à Marseille, est pris en chasse par des motards, abat un gendarme, cavale. Arrivé à Paris, il ne pense qu'à récupérer l'argent d'un ancien complice. Pour emmener à Rome, Patricia Franchini, c'est Jean Seberg, une journaliste américaine débutante qui vend le New York Herald Tribune à la criée. Résumé classique d'un film d'une folle modernité, un faux polar, Laurent, et une vraie tragédie amoureuse.
Mais Christine, à bout de souffle. Non mais et quel titre, hein, à bout de souffle quand on incarnera au bout du compte la nouvelle vague. À bout de souffle quand il s'agit tout au contraire de faire se lever sur le cinéma français un grand bol d'air frais. À bout de souffle quand on veut tout réinventer sans jamais être dupe que tout l'a déjà été en 1895 et même avant. Alors oui, hein, il faut du souffle, en effet, pour bousculer tout ça. Jamais pourtant un révolutionnaire n'aura tant douté de lui-même que Godard, prenant d'assaut la petite Bastille conformiste de ce cinéma français d'après-guerre, que son copain François s'était chargé de dynamiter avec des mots. Godard, lui, ce sera en images et en son comme il se doit quand on veut faire du cinéma une arme de destruction massive. D'entrée de jeu, on y est. Ça a commencé comme ça, comme dirait l'autre, avec cette voix off de voyou au départ de Marseille.
La 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 la, la 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 la. Buenas noches, mi amor. S'il croit qu'il va me doubler celui-là, mais que ça frégate à la con. Pa 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 Patricia, Patricia.
Voilà, pas le temps de s'installer. On est dans la tête du héros et en quatrième vitesse, s'il vous plaît. Série B comme bombe oblige de tous les cinéastes de la nouvelle vague. Godard est le seul à faire de son premier film un manifeste totalement à son image. Alors les hasards de la programmation, mais il n'y a jamais de hasard, hein, font qu'aujourd'hui nous parlerons aussi de Thomas Vinterberg qui fit lui aussi de ses premiers films un manifeste, celui du fameux dogme, vous le rappeliez Christine. Mais ce dernier, tout comme la nouvelle vague, ne résista pas au temps qui passe. Seul entre tous, Godard, lui, est resté fidèle à ses premières images décousues, virevoltantes, hachées, provocantes et pour tout dire, explosives. Le Godard d'après est déjà dedans, y compris le Godard des collages, du décousu main et du coq à l'âne érigé en art. Si À bout de souffle n'a rien perdu de sa vigueur, c'est que c'est un alcool fort et du brutal. Du haut de ses 90 minutes chrono, il nous embarque et nous laisse épuisés. Qu'est-ce que on peut vraiment voir après ça ?
Hélas, hélas, hélas. J'aime une fille qui a une très jolie nuque, de très jolis seins, une très jolie voix, de très jolis poignets, un très joli front, de très jolis genoux. Mais qui est
À bout de souffle, produit par Georges de Borgard avec Godard en 1959, c'est important de le rappeler. Deux types qui risquaient beaucoup sur le même projet, enfin, surtout Borgard.
Moi, je suis tombé sur un producteur que je connaissais depuis 2 ou 3 ans qui m'a dit, est-ce que vous n'avez pas 2 ou 3 sujets pour moi, qui était de Borgard, que je veux faire au cinéma. J'aimerais bien le faire, mais avec vous, ça ne marchera pas. Donc, c'est pas la peine que je vous les propose. Alors, aussitôt, quoi, qu'est-ce que c'est apportez-moi ça tout de suite. T'es un peu vexé que ça soit pas pour lui, et je lui ai apporté, il a dit, mais si, c'est tout à fait pour moi, on va le faire. Il était dans une situation financière où il fallait qu'il risque également, parce qu'il fallait qu'il fasse quelque chose. Il était en faillite 2 mois après. Moi, j'étais dans la même situation, c'est-à-dire, on était tous les deux, tout à gagner et absolument rien à perdre.
Pour rassurer son producteur, Godard s'appuie sur Truffaut, pour écrire une ébauche de scénario et sur Chabrol, comme conseiller technique et artistique, Chabrol, qui rétablit la vérité.
C'est entièrement bidon, et le scénario de Truffaut et mon côté conseiller artistique, et je ne sais quoi, c'était complètement bidon. En réalité, ce qui s'est passé, c'est que avec François, on avait commencé à faire un petit sujet, comme ça, à écrire vaguement tous les deux, sur Poincaré, c'est ça. C'est lui qui avait trouvé ce fait divers dans un journal, et puis on avait commencé à travailler là-dessus. Et puis, on l'avait laissé tomber, parce qu'on n'était pas tout à fait d'accord sur la manière dont il retrouvait la fille à Paris. Enfin, lui voulait complètement justifier, moi je pensais que c'était mieux de ne pas justifier, et je dois dire qu'on avait trouvé ni l'un ni l'autre, le New York Herald Tribune.
New York Herald Tribune ?
Qu'est-ce qu'il y a ?
Rien, je te regarde.
Vous êtes fâché que j'ai parti sans dire au revoir?
Non, mais j'étais furieux parce que j'étais triste. C'est agréable pas de s'endormir, mais de se réveiller à côté d'une fille.
Vous allez rester à Paris?
Oui, faut que je voie un type qui me doit de l'argent. Après, il faut que je te voie toi.
Non, il ne faut pas.
Pourquoi?
Il y a beaucoup de filles à Paris plus jolies que moi.
Non, c'est drôle. J'ai couché avec 2 filles depuis qu'on s'est vu. Eh bien, ça gazait absolument pas.
Qu'est-ce que c'est ?
Elles étaient très jolies, mais ça gazait pas, ça marchait pas, c'était triste.
Georges de Borgard impose Gene Seberg, dont le cachet, $15,000 quand même, représentera 1/6 du budget. Seberg, d'abord déstabilisé par les méthodes de Godard, si différentes de celles de Hollywood, devient pourtant si nature et si naturel devant la caméra du cinéaste. Belmondo, lui, pour avoir déjà tourné avec Godard, dans Charlotte et son Jules, même s'il est doublé pour la voix par Godard, connaît bien la mélodie.
Bon, j'entends dire souvent qu'il est désagréable avec des acteurs ou des choses comme ça. Il n'était pas du tout désagréable. Bon, c'est pas un type qui se tapait sur les cuisses toute la journée. Il vous disait le texte, il vous disait, dis-lui je t'aime. Paf, derrière on disait je t'aime. Vous comprenez ? Il vous demandait pas son intonation à lui. Mm-hmm. Il vous envoyait le dialogue quand il avait envie. Par exemple, un jour, Jean s'était maquillée et il voulait pas qu'elle se maquille, vous savez, dans le film. Et elle était trop maquillée ce jour-là, et pendant qu'on tournait, il m'a dit, dis-lui, t'es moche quand t'es maquillée. Alors j'ai balancé, t'es moche quand t'es maquillée. La script a dû écrire qu'à un moment donné, je crois que c'est parce que c'est quand même très vieux, mais c'est à l'hôtel de Suède où il lui a demandé de rester sur le palier. Mais oui, la script l'emmerdait, et les raccords, ça l'emmerdait, il voulait faire, parce que vous savez, si vous voulez aussi dans la liberté, quand vous dites qu'on avait une liberté, la liberté, elle était là aussi. C'est que dans le cinéma, disons, traditionnel, vous avez des scripts qui nous emmerdaient à dire attention, faut mettre la main là parce qu'il y a le raccord de ci, de ça. Lui se foutait des raccords totalement. Non, mais c'est ça, le bruit, c'est ça, c'est que c'était pas montable. Et quand j'ai été, je vous dis, faire la synchro, le type m'ont dit, d'abord c'est ordurier, il disait c'est pas montable, il y a que des faux raccords. Tout le monde parlait que des faux raccords, si vous voulez. Et personne ne voyait. Si vous voulez, même si je me rappelle, j'étais chez Simura à l'époque, et Simura m'a dit, pourvu que ce film ne sorte pas, il va arrêter votre carrière.
Si tu étais avec un autre type, tu le laisserais te caresser ? sais, tu disais que j'avais peur, Michel. C'est vrai, j'ai peur. Parce que je voudrais que tu m'aimes. Et puis, je ne sais pas. En même temps, je voudrais que tu m'aimes plus. Je suis très indépendante, tu sais.
Et alors, moi je t'aime. Et pas comme tu crois.
Comment?
Pas comme tu crois.
Tu ne sais pas ce que je crois.
Si.
Tu ne sais pas à quoi je pense.
Si.
Non, c'est impossible. Je voudrais savoir ce qu'il y a derrière ton visage. Je le regarde depuis 10 minutes et je ne sais rien. Rien, rien. Je ne suis pas triste, mais j'ai peur.
La chambre 12 de l'hôtel de Suède, Godard y tenait à ce décor minuscule. Les deux acteurs, Godard, son chef-op Raoul Coutard et la script Suzanne Fay, qui témoignent de cette promiscuité.
Oui, l'hôtel de Suède. Quand je me souviens, il l'avait choisi parce que c'était l'hôtel où les chambres étaient le plus petites, c'est-à-dire le lit prenait presque toute la surface de la chambre. Et alors, quand on voulait aller d'un côté à l'autre, il fallait passer sur le lit pour aller de l'autre côté. Mais enfin, on peut dire qu'on a tourné son scénario, tout le monde le sait, presque sans lumière. Avec, il voulait pas qu'on fasse de clap, il y avait pas de son. Donc il fallait, heureusement, il écrivait au fur et à mesure, et il disait les phrases aux comédiens, qu'il les répétait après lui.
Plus tard, Godard dira qu'il n'a rien improvisé. Chaque matin, il rédigeait 8 pages pour la séquence de la journée. Borgard, le producteur, s'affole de ses méthodes, exige un tournage classique. Dans une note qu'il envoie à l'équipe, tension vécue et racontée par le chef opérateur Raoul Coutard.
Il y avait aussi, forcément, je veux dire, beaucoup de tension avec le producteur, avec Borgard, parce que, naturellement, quand Jean-Luc décidait de pas tourner ou de finir la journée avant l'heure, l'autre, il met dingue, Borgard. Bon, je sais qu'il y a eu une fois une histoire aussi comme ça, parce qu'il avait... Il avait arrêté le tournage, ils se sont rencontrés par hasard. Borgard était en fou de rage, ils se sont rencontrés par hasard devant la Belle Ferronnière, ils se sont battus.
Ah oui.
Et c'est les gens de la Belle Ferro qui se sont précipités pour les sortir du ruisseau. Puis à la fin, Borgard a compris que l'affaire fonctionnait. Donc il n'y avait pas de raison de.
Godard, vous donnez l'impression d'être un type seul sur le tournage?
Bon, c'est un type. Personnellement, je pense que c'est un gars qui a beaucoup de problèmes. Moi, c'est un personnage que j'aime beaucoup, je veux dire, bien que j'ai beaucoup de tendresse pour lui, tout en étant des fois très méchant avec lui. Mais... Parce qu'en plus, c'est vrai que si on regarde la nouvelle vague, bon, c'est vraiment avec Rivette le seul qui restait.
Entre le chagrin et le néant, je choisis le chagrin. Et toi, tu choisirais quoi?
Monte tes doigts de pied. Très important, les doigts de pied chez une femme, rigole pas.
Tu choisirais quoi?
Le chagrin, c'est idiot. Je choisis le néant. C'est pas mieux. Et le chagrin, c'est un compromis. Faut tout ou rien. Puis maintenant, je le sais. Ça y est. Pourquoi tu fermes les yeux?
J'essaie de fermer mes yeux très fort pour que tout devienne noir. Mais je n'y arrive pas. C'est jamais complètement noir.
Ton sourire, quand on le voit de profil, c'est ce que tu as de mieux. Ça, c'est toi.
Le tournage d'À bout de souffle dura 23 jours. Dans la continuité et au gré des notes de Jean-Luc Godard, les dialogues seront rejoués en post-synchro puisque pas de son direct sur le tournage. Le film est trop long, selon son producteur, et Godard, avec sa monteuse Cécile de Rugis, coupera à l'intérieur des séquences. Il invente, entre autres, le jump cut, l'enchaînement abrupt de plusieurs bouts de plans appartenant à différentes prises d'une même séquence. Un raccord sur deux est incorrect et la faute devient style. Le film, sorti le 16 mars 1960 dans 4 salles, grand public, connaît un succès vraiment public et immédiat, malgré son interdiction au moins de 18 ans. Raison invoquée par la commission de censure, 2 points, attention, ouvrez les guillemets. Tout dans le comportement de ce jeune garçon, son influence croissante sur la jeune fille, la nature du dialogue contre-indique la projection de ce film devant des mineurs.
Je t'aime beaucoup, énormément, Michel.
J'ai l'impression que ça te fait, Patricia, d'être dans une voiture volée.
Et toi, quand tu as tué le policier?
J'ai eu peur.
Mais comment le police a su que je vous connaissais?
Un type a dû nous voir ensemble et nous dénoncer.
C'est très mal.
Quoi?
dénoncer. Je trouve que c'est très mal.
Non, c'est normal. Les dénonciateurs dénoncent. Les cambrioleurs cambriolent. Les assassins assassinent. Les amoureux s'aiment.
Voilà, toute l'aventure d'À bout de souffle dans ce magnifique coffret édité par Studio Canal et qui vient de sortir, le film en Blu-ray restauré, donc un vinyle génial, 33 tours de la BO de Martial Solal, un livret et des bonus, et notamment ce document de cinéma dont nous avons extrait quelques sons. Ça s'appelle Chambre 12, Hôtel de Suède, avec Xavier Viltard en témoin, en grand témoin, et Claude Ventura pour la réalisation. On se retrouve juste après Dany avec Thomas Vinterberg, l'auteur de Drunk.
Bonjour, je voudrais parler à Jean-Luc Godard, s'il vous plaît.
Allô ?
Allô, Jean-Luc Godard ?
Oui, c'est moi.
Bonjour, j'aurais voulu vous poser quelques questions concernant À bout de souffle.
Oh, vous rêvez, non.
Pourquoi je rêve ?
Voilà, au revoir.
Mais dites-moi pourquoi je rêve. Allô ?
Je suis dingue. Tout le monde dit que je suis dingue. Mais y a que toi qui me distingue. Oui, de les autres dingues. De toute façon, j'ai un flingue. Alors rangez vos seringues. Où je monte à fond la bastringue. De Paris à Saint-Domingue. Tu vois, je suis dingue. Tout le monde dit que je suis dingue. Regardez ma vieille carlingue. Certains la trouvent un peu ringue. Mais ma carlingue, j'en suis dingue. Oui, même quand elle se déglingue. Tu vois, je suis.
On s'en souvient de ce toast du fils au père qu'il a abusé petit, Festen, un choc. Le film du dogme danois signé Thomas Vinterberg, c'était en 1998. Depuis, on avait un peu perdu Vinterberg jusqu'à cette renaissance en 2010 avec Submarino et La Chasse en 2012 et cet acteur phénoménal Mads Mikkelsen à l'affiche encore de ce nouveau film Drunk. Quatre amis, professeurs, quadra, chacun mal dans sa vie, décide de mettre en pratique la théorie d'un psychologue norvégien selon laquelle l'homme aurait dès la naissance un déficit d'alcool dans le sang. Célébration de l'ivresse et aussi portrait lucide de ses effets dévastateurs, mais sans leçon de morale et des questions cruciales, comme est-ce raisonnable d'être sage et surtout s'accepter comme sujet faillible. Un sujet est grave et sérieux, mais ponctué ça et là de pas mal d'humour. Drunk aurait dû être en compétition à Cannes cette année et aurait sûrement figuré au palmarès. Il conserve le label cannois, bien sûr. Énorme succès au Danemark où il est sorti récemment et en France depuis quelques jours. Nous avons rencontré Thomas Vinterberg, traduit par Harold Manning. Oh no, well, I'm in fire, but I'm young and alive. Awkward figures hanging, what a lie.
Sind wir auf der Sogott? Ist mir alle noch. Jetzt Robert da mir, mal hinter der. Ja, muss wie ich. In der Litt heuer.
So wie ich gibt's da hier.
Bonjour Thomas.
Bonjour.
Il y a deux repas qu'on n'oubliera pas dans votre filmographie, celui de Festen et celui-là de Drunk, au cours duquel quatre amis décident de tenter une expérience avec l'alcool. L'alcool qui libérait la parole sans doute du protagoniste de Festen, Christian, et l'alcool pour retrouver le désir de vivre dans celui-là. L'alcool, alors, c'est comme une métaphore.
Exactly. Alcohol.
Tout à fait.
Is you when you put the bottle or the glass to your lips.
Quand vous portez le verre ou la bouteille à vos lèvres, vous prenez un contrat entre vous-même et votre entourage. Vous entrez dans le domaine de l'incontrôlable. Vous entrez un nouvel espace. Un espace dans lequel vous pouvez tomber amoureux. Vous pouvez être tabassé.
Where your conversation can elevate.
Où votre conversation peut s'élever.
Where things are at risk.
Où en tout cas tout est en risque.
Because they're less controllable.
Parce que tout est moins sous contrôle.
So yes, it's a liberation.
Donc oui, c'est une libération de la conversation.
Or a liberation of your
ou
evening.
Une libération de vous-même, de
or
votre soirée.
A liberation of your life, as
ou c'est peut-être une libération de votre vie.
If you have something at risk,
si vous avez quelque chose qui est mis en risque,
you become curious,
vous devenez curieux,
explorative,
vous explorez,
open,
vous ouvrez l'esprit,
and present,
et présent dans le moment.
And first of all,
et avant tout,
courageous.
Vous prenez du courage.
Dans le film, la femme de Martin lui dit « Tout le monde picole dans ce pays ». Moi, j'ajouterais « Le monde entier picole ». Pour oublier.
I think the whole world is drinking.
Le monde entier boit.
Not necessarily to forget.
Pas forcément pour oublier.
There's many, many reasons to drink.
Il y a beaucoup, beaucoup de raisons pour boire.
A dear friend of mine,
un ami proche à moi, qui est le co-scénariste de Festen,
he enjoyed a lot of alcohol.
Lui, il aimait vraiment bien boire.
He said it's a great misunderstanding that you drink because you feel bad.
Et il disait que c'est complètement mal comprendre les choses que de dire qu'on boit parce que ça va mal.
I'm drinking.
Moi, je bois, disait-il, quand je suis super, quand je me sens bien, quand je me sens en plein d'enthousiasme, c'est là où j'ai besoin de boire. Il y a donc beaucoup de raisons pour boire. Et donc, effectivement, dans l'histoire du monde, l'alcool est très important parce que les hommes et les personnes hein, cherchent à trouver le moyen de s'éclaircir la vie par l'alcool. Mais il ne faut pas oublier
means more than alcohol.
Que esprit et alcool, ça veut dire, c'est le même mot en anglais, et esprit, c'est plus que de
it's
l'alcool.
Embedded in the word inspiration.
C'est plus fort que le mot simplement inspiration.
And that's hopefully what the movie is about.
Et j'espère que c'est de ça
it's
dont le film pense.
Your life.
Il s'agit de reprendre contrôle sur sa vie.
It's a life-affirming film.
C'est un film qui vraiment...
I've succeeded in what I wanted.
Souligne vraiment les capacités puissantes qu'on peut avoir dans la vie.
Au-delà de l'alcool, c'est un film sur la crise de la quarantaine, quatre types qui ont laissé filer leur vie, leurs rêves. C'est drôle parce qu'il n'est d'ailleurs même pas question d'adultère, d'aller voir ailleurs, mais c'est une vraie introspection avec soi-même.
There's this point in life where,
il y a un moment dans la vie
a sense of repetitiousness.
Où les choses semblent se répéter.
It reminds you that you have to die.
Ça vous rappelle que la mort approche.
And they have all been caught off
et
by this.
Ils sont tous pris là-dedans.
They have lost the element of
ils ont perdu la curiosité
and interest
et l'intérêt pour les choses
and again risk.
Et l'envie de prendre des risques.
They have also become lonely.
Également, ils sont devenus seuls.
Even when they have this dinner that you talk
et même quand il y a cette scène de dîner dont vous parliez,
four lonely people in the same room.
Et on a l'impression que ce sont quatre personnes très solitaires ensemble réunies dans cette pièce.
And then this, socially accepted, miracle
et puis il y a
liquid.
Ce miracle liquide, ce liquide qui, quelque part, produit une impression d'être ensemble et de vivre quelque chose ensemble. Toutes les barrières disparaissent grâce à ce liquide.
And I guess when they start this experiment,
j'ai l'impression que quand ils commencent leur expérience,
they impose risk upon themselves.
Ils s'imposent à eux-mêmes une prise de risque.
As in dogma,
comme dans le dogme,
They are jumping off a cliff.
Ils sautent d'une falaise Ils font l'impossible, ce qui est dangereux et presque suicidaire. Ils ne savent pas s'il y a de l'eau qui va les réceptionner, mais ils se tiennent la main ensemble. Et quand on fait ça, quand on fait quelque chose de fou, de dangereux ensemble, il y a ce sens de la solidarité qui arrive.
C'est drôle, vous parliez de Dogma. C'est vrai que Dogma était une expérimentation pour réveiller le cinéma. Et vous disiez à l'époque, mon but suprême est de forcer la vérité à sortir de mes personnages. Mais vous y êtes arrivé.
Exactly, and I think there's a very, very clear parallel.
Tout à fait. Et pour moi, il y a un parallèle vraiment très clair avec ce film. Ils essaient de sortir la vérité d'eux-mêmes, de leur propre vie.
And there are four men. Doing the impossible.
Et puis ce sont quatre hommes qui tentent vraiment l'impossible.
Forming this experiment as Dogma was.
Et cet expériment, ça ressemble vraiment au Dogma, oui.
It's life-giving for them as it was for us.
C'est quelque chose qui leur rend la vie, et ça l'a été également pour nous en faisant ce film.
The parallel is obvious.
Et oui, le parallèle, effectivement, il est très clair.
Mais vous, Thomas, est-ce que vous avez eu à un moment une sorte de, en tant que cinéaste, vous avez senti que vous avez perdu vos rêves de jeunesse?
Absolument. When I had done my Dogma movie.
Oui, quand j'ai fait mon film selon le dogme.
I felt I had walked down my path.
J'ai eu l'impression d'avoir.
And I had come to a conclusion.
D'être arrivé à une conclusion.
And I could come no further.
Et que je ne voudrais pas aller plus loin.
I felt I had made the ultimate film.
J'ai l'impression que j'avais fait le film ultime.
And I had to turn around.
Et il me fallait me retourner.
And when I turned around,
et en me retournant, le monde m'était ouvert.
And it was even also now consisting of a success.
Et on pouvait y trouver le succès.
Which made it even more open.
Et du coup, ce qui ouvrait encore plus de possibilités.
So I was lost.
Mais j'étais perdu.
And I was trying to find my way through things.
J'essayais de trouver ma voie.
And I was exploring.
J'essayais d'explorer.
And it was a combination of very lively.
Et c'est un mélange de
full of fantastic moments.
Moments très vifs, plein de choses fantastiques.
And I really also hurt myself.
Et aussi, je me suis fait du mal.
I guess I slowly,
lentement,
destroyed my career.
J'ai sûrement détruit ma propre carrière, mon mariage,
my financial situation,
et ma situation financière
at the same time.
En même temps.
And when it was all destroyed.
Tout a été détruit.
When there was only the ashes and the smoke left.
Et quand il n'y avait plus que les cendres.
I made a film called Submarino.
J'ai fait un film qui s'appelle Submarino.
Which came from a very pure and clear place in my life.
Qui vient d'un endroit dans ma vie qui est très clair, très lumineux, très pur.
And that was a turning point for
me. Et ça a été vraiment un
return to the desire to make movies.
C'est vraiment le moment où je suis retourné vers le désir de faire du cinéma.
My curiosity came back.
Ma curiosité m'est revenue.
And that film reminded me of making my graduate film.
Et ce film, c'était comme mon film de fin d'études quelque part. Ça m'a remis dans cette position-là.
And I had this advice from
Bergman. Et j'ai reçu ce conseil de Bergman,
which really helped me.
Qui m'a vraiment aidé.
He said.
Il m'a dit.
Thomas, decide your next project.
Thomas, décide.
Before the premiere. Of your existing project.
De ton projet qui va suivre avant la première de ton film actuel.
Because two things can happen.
Parce que deux choses peuvent arriver.
One is that you
le premier, c'est que tu.
At your opening night.
C'est à la première, tu te rends compte que c'est un échec.
And you become, fearful and you become
et là,
strategic.
Tu vas avoir peur, tu vas vraiment.
But even worse, you can have a success.
Mais il y a pire que ça, c'est que ça peut être un grand succès.
Which destroys everything.
Et là, ça détruit tout.
And then I said to him, listen, but you're
dit,
asking me to decide.
Mais tu me demandes de décider de mon prochain projet quand je suis en mixage ou au montage.
And he goes, yes, exactly.
Et il me dit oui, absolument.
Because then you don't have time to think.
Parce que là, tu n'as pas le temps de penser.
Shorter distance from your heart to your hand.
Et ça ira très naturellement. La décision sera prise de ton cœur et vers ta main. Ça ira très vite.
Just grab it and do it.
Donc, et saisis cette chance et fais-le.
Don't spend time thinking.
Ne passe pas trop de temps à réfléchir à qui tu es, à quel genre de réalisateur tu es, qu'est-ce qui serait bien pour toi, est-ce qu'il faudrait que je prenne un agent ou pas. Non, non, fonce, fais-le. C'était vraiment une grande aide, ce conseil.
Tout à l'heure, vous parliez par rapport à l'alcool, ces hommes-là ont conscience de la mort ou de la fin, quoi. Vous, en tant que metteur en scène, vous savez combien de films vous avez encore à réaliser?
Right now, I'm
là, en ce moment. Je suis dans une situation assez singulière. J'ai beaucoup de plaisir à écrire.
But my life is a tragedy.
Mais ma vie est une tragédie.
Perhaps you didn't know, but I,
peut-être que vous ne le savez pas, mais j'ai perdu ma fille il y a un an.
And she was 19 years
old. Elle avait 19 ans.
And it, overshadows
et ça a porté une ombre sur tout ce que je fais.
So, whatever could have been a midlife crisis.
Alors, la crise de la quarantaine ou choses comme ça, pour moi,
nothing.
Ça ne veut rien dire.
But I enjoy the writing.
Mais j'aime écrire.
And it keeps me going.
Et ça me fait vivre.
Sa vie est une tragédie et pourtant, son film est un voyage vers la lumière. Drunk est sorti le 14 octobre. Vraiment, allez-y. Avant de se retrouver pour les sorties, la musique de Drunk, ce morceau What a Life, signé Bini Benassi et Bibi Tim Balkanik Remix.
What a life, what a night, what a beautiful, beautiful ride. Don't know where I'm in five, but I'm young and alive. Fuck what they are saying, what a life. I'm so thrilled right now, cause I'm popping right now. Don't wanna worry about a thing,
don't wanna worry.
But it makes me terrified to be on the other side. How long before I go insane?
Quelle vie, quelle nuit.
Non, faut redescendre de la table et arrêter de danser, Christine. Allons.
On va commencer ces sorties de ce mercredi par City Hall,
oui.
De Frédéric Wiseman, à 10 jours de l'élection présidentielle américaine. Il a investi la municipalité de Boston, sa ville natale, où le maire démocrate Marty Walsh et ses équipes travaillent dans un esprit participatif et collaboratif avec les citoyens à la mise en place d'une politique sociale, culturelle et égalitaire. Une démonstration de la démocratie au quotidien, traquée à chaque coin de rue par la caméra de Wiseman.
Oui, effectivement. Alors, c'est d'abord la radiographie d'une cité américaine, et pas n'importe laquelle, Boston, pour laquelle, manifestement, Wiseman a une vraie empathie. Alors, dans tous les domaines, la police, l'environnement, l'immobilier, l'éducation, les quartiers, les commerces, la santé, enfin bref, tout y passe, avec, en éclairage principal. Vous le disiez, l'exercice d'une démocratie locale voulue par ce maire démocrate, clairement, c'est un projet politique, car c'est d'abord un film sur ce sujet, le débat, la délibération, le forum, la consultation, avec évidemment la méthode Wiseman, hein, pas de commentaires, pas d'analyse, on laisse les gens parler, s'exprimer, et ça donne dans des séquences qui prennent leur temps, effectivement, une très très belle leçon de démocratie locale avec des gens qui parlent de leur environnement, de ce qu'il faut faire, de ce qu'il faut pas faire, de ce qu'ils ont envie, de ce qu'ils ont pas envie. Enfin bref, on a une sorte, faut le dire, clairement, de manifeste anti-Trump, c'est-à-dire c'est un film qui parle du peuple, mais sans populisme, qui parle de consulter le peuple sans pour autant lui donner ni forcément raison, ni forcément tort, mais en tous les cas, effectivement, une sorte de vision démocrate de l'Amérique.
Ça dure 4h32 quand même, hein ?
Oui, ça dure 4h32.
Mais avec une nouvelle séance à 8h du matin, c'est bien, on peut se faire ça dans la matinée.
Exactement, et après on va voir un autre film.
Adieu les cons, le nouveau film d'Albert Dupontel, lorsque Suze Trapès et Virginie Efira apprend à 43 ans qu'elle est très gravement malade, elle décide de partir à la recherche de l'enfant qu'elle a été forcée d'abandonner quand elle avait 15 ans. Sa quête administrative va lui faire croiser JB, c'est Albert Dupontel, quinquagénaire, en plein burn-out, et Monsieur Blin, archiviste aveugle d'un enthousiasme impressionnant, c'est le grand Nicolas marié à eux trois. Il se lance dans une quête aussi spectaculaire qu'improbable. Une tragédie burlesque, la définition de son film par Dupontel, ou comment faire se croiser trois cabossés de la vie dans une époque folle et cynique, en éraflant au passage l'administration comme son modèle Brésil, la police, en abordant des thèmes aussi énormes que la naissance sous X, les inégalités ou Alzheimer, le tout dans une série d'aventures rocambolesques, pleines d'exubérance et d'effets spéciaux impressionnants, comme cette scène d'ascenseur à la chute, si je puis dire, si tendre. Parce que Dupontel, au milieu de sa course folle, n'oublie pas de jouer la carte de l'émotion. Témoin ce dialogue à la fenêtre entre Efira et lui, avant de conclure son histoire sur une note punk à l'image du titre. Adieu les cons, c'est un ton unique dans le cinéma français, tellement ambitieux, mais tellement ambitieux, comparé à toutes ces comédies paresseuses et sans enjeu. Israël, le voyage interdit, partie 3, Pourim, de Jean-Pierre Liédo, qui questionne la responsabilité des pays arabes dans le conflit israélo-palestinien, le récit intime d'un homme qui retourne vers ses racines maternelles juives à travers une multitude d'histoires et de rencontres, Laurent.
Tout à fait, troisième partie, effectivement, de ce voyage en Israël qui interroge, ou l'auteur interroge sans relâche, les clichés, les idées reçues, il traque l'antisémitisme sous toutes ses formes, un peu partout dans cette région du monde, en revenant, par exemple, et sans tabou, sur le rôle du grand moufti de Jérusalem durant la Seconde Guerre mondiale, hein, qui n'hésitera pas à dire du bien d'Hitler et à s'allier au régime nazi. Alors, Liédo reprend ces histoires-là, il les remet sur la table avec une force de conviction certaine. Il est évident que l'extrême complexité de la situation d'Israël, eh ben, autorise au fond toute cette analyse en profondeur. Ça gratte là où ça fait mal, ça fera pas plaisir à tout le monde, mais au moins c'est une très belle contribution, à la fois d'ailleurs très universelle et très personnelle, au débat en cours.
Michel-Ange d'Andrei Konchalovsky. Michel-Ange, à travers les moments d'angoisse et d'extase de son génie créatif, tandis que deux familles nobles rivales se disputent sa loyauté. Mais c'est russe ou c'est italien, ce film, a demandé ma voisine. Eh bien, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'énergie et de vitalité russe, comme son réalisateur dans ce film. Tout comme le Andrei Roublev, que Konchalovsky avait scénarisé il y a plus de 50 ans pour Tarkovsky. Comme Roublev, Michel-Ange a lui aussi dû affronter le pouvoir de la religion. Un artiste pris en étau entre deux familles rivales avec chacune leur pape, les Médicis et les Della Rovere, qui se disputent ce génie. Ce génie et ses états d'âme, ses affres, l'argent des mécènes, le temps pour accomplir son œuvre, les trahisons et l'art au prix du sang versé. Tout cela est abordé dans ce film avec plus ou moins de bonheur, pas mal d'ennui parfois, et au milieu, quelques scènes remarquables, et puis ce monstre, cet immense bloc de marbre que Michel-Ange va chercher dans les montagnes de Carrare et qui nous ramène concrètement à la création. C'est dans ce marbre, Laurent, que sont nés tous ces chefs-d'œuvre.
Oui, il est évident que la figure de ce bloc de marbre blanc que des artisans italiens vont faire descendre de la montagne. Enfin, il y a des scènes extraordinaires jouées par des. Je pense que c'est pas des acteurs professionnels,
non,
mais justement,
c'est des locaux,
Hein, sont des locaux qui ont, même quand ils coupe une tranche de saucisson, ils sont dans une vérité incroyable. Donc toute cette partie-là qui est quasiment documentaire, c'est-à-dire comment déplacer le monstre, ça c'est tout à fait formidable. Après, il y a effectivement certaines lourdeurs, c'est-à-dire cette façon de nous dire, y compris avec un petit bandit pour nous dire, on est au Vatican, donc on est dans le beau, le luxuriant, la luxure presque avec les papes, etc. Et puis on est à Rome, donc pas au Vatican, mais on est à Rome, c'est-à-dire là où à Rome, il n'y a pas une rue où il ne se déverse pas sans cesse à un seau de désordre. Bon, ça tourne parfois au système et c'est dommage. Et puis moi, j'ai eu un peu de mal à imaginer que ce petit bonhomme barbu qu'on nous montre tout au long du film ait pu créer des choses aussi sublimissimes que la Pietà. Voilà, là il y a un petit gap que je ne suis pas arrivé à franchir, mais néanmoins, il y a dans ce film des scènes sublimes et beaucoup beaucoup de cinéma.
Ouais. Le feu sacré, c'est un doc d'Éric Guéret. Dans le Nord, la série Ascoval est menacée de fermeture. Les 300 salariés ont une année pour trouver un repreneur dans la chaleur des fours. Sur les barrages routiers et jusqu'au couloir de Bercy, les ouvriers, la direction, les responsables syndicaux refusent de se laisser submerger par cette violence mondialisée. Même si on connaît la fin, Laurent, puisque depuis août, Ascoval a finalement été repris par le groupe britannique Liberty Steel. Le suspense est maintenu.
Mais oui, parce que oui, c'est du déjà vu, d'accord, des ouvriers et des salariés déterminés à conserver leur outil de travail, un repreneur qui est un véritable vautour, des partenaires extérieurs, gouvernementaux, institutionnels, plus ou moins bien intentionnés, plus ou moins capables de saisir le problème à bras-le-corps. Mais tout est en place, effectivement, comme vous le dites, pour un suspense qui dure 18 mois. On connaît la fin, mais il y a quand même un cortège d'espoir, d'abattement, de trahison qui en font une incroyable comédie humaine. Le feu sacré est dans les têtes aussi bien évidemment que dans les hauts fourneaux de la Syrie. C'est un nouveau portrait d'une France, il faut bien le dire, tendance couleur jaune, qui remet singulièrement et sérieusement en cause ses élites et surtout le système économique qui en découle et qui est manifestement beaucoup plus oppressant qu'il ne devrait. Il faut voir ce documentaire les yeux dans les yeux parce que décidément, c'est une partie de la France qui existe.
Ça s'appelle Le Feu Sacré.
Le Feu Sacré, Éric Guéret.
Last Words de Jonathan Nociter, adapté du roman de Santiago Amigorena. Mais dernier mot, en 2085, la Terre n'est plus qu'un immense désert. Les derniers survivants se rejoignent à Athènes, appelés par un ultime espoir. Et là, au milieu des ruines, un groupe d'hommes et de femmes survivent, retrouvent le plaisir d'être ensemble autour de projections de films du passé. Le cinéma sauvera le monde, c'est un peu la thèse de Nociter et de son film. Une espèce de cinéma paradiso-apocalyptique, notons une incohérence de taille quand même. Je sais que le cinéma est magique, mais quand même, comment font-ils sans électricité pour entendre les dialogues et les musiques de ces films? Projeter une incohérence parmi d'autres, Laurent, dans un océan d'ennui quand même.
Ben oui, alors c'est très curieux parce que le cinéaste de Mondovino, hein, ce film bon, qui avait fait beaucoup parler de lui, est quand même à juste titre globalement, ce documentaire sur le milieu du vin, est devenu depuis un agriculteur bio en Italie, c'est-à-dire qu'il a complètement oublié le cinéma. Alors fallait-il vraiment justement qu'il revienne au cinéma une dernière fois, dans cette très très lourde fiction, hein, le paysan qui est devenu laboure les terres du futur apocalyptique avec un gros tracteur qui marche au diesel de tous les clichés sur les paumés de la société, les damnés de la terre. Il y a vraiment une galerie de... ils sont pas affreux, sales et méchants parce qu'ils sont tellement paumés, mais on a vraiment l'impression d'une série de clichés. Et vous le disiez, ce recours très artificiel au cinéma qui devrait sauver le monde, franchement, on aurait aimé un peu plus de complexité et de légèreté pour nous dire tout ça.
On va conclure avec Petit Vampire, Johan Sfar.
C'est une bonne façon de conclure.
Il vit dans une maison hantée avec une joyeuse bande de monstres, mais il s'ennuie terriblement. Ça fait maintenant 300 ans qu'il a 10 ans. Accompagné par Fantomat, son fidèle bulldog, Petit Vampire s'échappe du manoir en cachette, déterminé à rencontrer d'autres enfants. Animation en 2D et fidèle à la BD. Ode à la diversité et à l'amitié, réflexion poétique aussi sur le deuil.
Oui, alors le petit héros inventé par le dessinateur Johan Sfar prend ici effectivement plein d'animations. Il a ses petites dents pointues. Il a un petit ami niçois malin comme un singe, hein, puisque tout se passe sur la Riviera, le pays de Johan Sfar. Donc là aussi, c'est tendre, ça a plein de couleurs pop. Il se lasse de regarder les films d'horreur de la Hammer, donc il va effectivement sortir de sa très très belle villa rococo sur la Riviera. Il va découvrir la vie. Alors d'accord, on peut trouver que la morale est un peu basique. Hein, il faut dépasser tout ça pour grandir. Il faut désobéir. Bon, très bien. bien, oui, ça paye, il n'y a rien de révolutionnaire là-dedans, mais tout l'univers de Johannes Pfaff fonctionne à merveille. Et il faut aller au cinéma avec ses enfants en ce moment, bien
sûr. Et peut-être même aller à ce premier, à mon premier festival où Le Petit Vampire sera présenté, c'est la 16e édition, jusqu'au 27 octobre, 14 lieux, 12 salles, 3 séances par jour, 4 euros la séance pour tous, avec, voilà, un petit peu dans le désordre, Beetlejuice, Feeble, The Host, c'est génial de montrer The Host aux enfants.
C'est une belle idée, il faut qu'il soit
E.T., armé, Les Beaux Gosses, Laurel et Hardy. Et en supplément de ce festival, on conseille, parce qu'on nous avait reçu un livre indispensable pour choisir des films pour vos enfants, ça s'appelle 100 grands films pour les petits chez Grund, de Lydia et Nicolas Boukreyev, pour faire naître l'émerveillement, la curiosité et l'envie de cinéma, du Voyage de la Lune à la Tortue Rouge, en passant par Fantasia, King Kong, Yellow Submarine ou mon voisin Totoro, des textes très intelligents de ces 3 à 8 ans. On attend la suite, bien sûr. Qu'est-ce qu'on peut dire
On redit que les cinémas ne sont pas des clusters en France. Donc on salue les initiatives, par exemple, des cinémas MK2, qui sont désormais ouverts, vous y faisiez allusion tout à l'heure, Christine, à 8h du matin. On peut s'enquiller de nombreux films de 8h jusqu'au couvre-feu. On le fait au MK2. Saluons l'initiative de la productrice et distributrice Sophie Dulac, qui, avec ses 5 cinémas parisiens, propose tout simplement le mercredi, jour des enfants, mais pas que, 5 euros la séance pour tous les films et toutes les séances. Ça aussi, c'est une belle initiative. Bref, allez, s'il vous plaît, au cinéma, dans les salles.
Et allez voir Drunk de Thomas Vinterberg le 14 octobre. Et puis, vous pouvez aussi acquérir ce magnifique coffret de Studio Canal sur la ressortie d'À bout de souffle.
Ou le revoir en salle, il est aussi en salle, dans belle version.
Et c'est Thomas Vinterberg qui va signer ce générique de fin. Au revoir.
This program was inspired by cinema. It was filmed in sound, it's radio. The title music were written by Georges Delarue. The songs have been chosen by Muriel Perez. Christophe Machère prepared the show. Laurent Thomas et Claire Destacan directed. Christine Masson et Laurent Delmas produced and presented. And I, Thomas Vinterberg, was in it.